RFI, grand reportage.
Une bombe de napalm est tombée sur la place tout près de chez nous. Je ne savais pas que c'était une arme chimique. Au contraire, je me suis dit que c'était une bouteille de gaz. L'odeur s'est propagée dans toute la maison et je me suis évanouie.
C'est un massacre à l'arme chimique dont les traces perdurent aujourd'hui. Il y a 35 ans, Saddam Hussein lançait une opération de répression au Kurdistan irakien, un massacre d'ampleur à l'arme chimique. Le chef d'État irakien voulait punir les Kurdes pour leur révolte nationaliste et les accusait de complicité avec l'ennemi iranien. Bilan de ces attaques, 180 000 morts, 9 villages sur 10 entièrement rasés. Les bombes chimiques de Saddam, une plaie encore ouverte pour les Kurdes d'Irak, c'est un grand reportage de Théo Renaud.
On est ici dans la rue principale de Halabja. C'est une rue qu'on appelle la rue des chariots parce qu'il y a plein de vendeurs ambulants qui vendent de la nourriture et qui se mettent sur la rue les jours de grande affluence. Comme aujourd'hui, c'est samedi. Il fait beau, donc il y a beaucoup de monde. Les taxis ont un peu de mal à avancer. C'est normal, c'est une belle journée du mois de mars. C'est aussi à cette période de l'année qu'il y a 35 ans, le régime de Saddam Hussein avait décidé d'attaquer Halabja, de larguer des armes chimiques sur les Kurdes pour la première fois.
J'étais dans une famille heureuse de 6 sœurs et 5 frères. Tout le monde était bien jusqu'à ce que l'attaque arrive. Je m'appelle Lokman Abdelkader Mohamed. J'avais 20 ans au moment de l'attaque. Je venais de me marier 3 mois plus tôt. Le premier groupe d'avions de l'armée irakienne est apparu dans le ciel d'Halabja à 11h45. Nous étions en train de préparer à manger. Quand on les a entendus, on s'est vite réfugiés dans la cave de notre maison. Mais l'armée irakienne s'était très bien préparée. En fait, les premières bombes étaient des bombes au napalm, pour que toutes les portes et les fenêtres des maisons se cassent. C'est dans un deuxième temps qu'ils ont largué les bombes chimiques, vers 14h.
C'est comme ça que vous avez survécu, en fait, en vous cachant au sous-sol.
En fait, non, pas du tout. Les gaz des armes chimiques, c'est plus lourd que l'air. Donc, c'est vite descendu dans les sous-sols. Se mettre dans la cave, c'est beaucoup plus dangereux. Si on ne s'y était pas réfugié, on n'aurait pas eu autant de dégâts sur notre santé. Peu de temps après, ma femme est morte, en plus de 2 de mes sœurs et 2 de mes frères à l'hôpital.
C'est le contexte large de la guerre entre l'Iran et l'Irak, qui a commencé en 1980, et un contexte encore plus large de l'insurrection kurde, et qui oppose donc les Kurdes et l'État central irakien, qui, dans les années 80, est dirigé donc par Saddam Hussein.
Boris Jam est chercheur, c'est un spécialiste du peuple kurde.
1988, il y a un contexte précis. Les forces kurdes sont accusées d'avoir aidé à une offensive iranienne hein, en tant qu'éclaireur. Donc voilà la représaille hein, qui va toucher les forces kurdes, mais aussi les populations civiles à une très grande échelle.
Sur les photos de l'époque, on aperçoit des centaines de cadavres qui jonchent les rues. Des Kurdes qui tentaient de quitter Halabja après s'être rendu compte qu'un nuage toxique avaient englouti leur ville.
Les effets de l'arsenal chimique irakien, les voici. Des enfants, des femmes, des hommes, frappés par une mort soudaine, tombés du ciel. À peine un sifflement, un nuage, une odeur, et puis plus rien. La vie anéantie.
Il
J'avais 13 ans, j'étais ici dans ce monastère qui appartenait à mon père.
On est ici dans le monastère soufi de Halabja, un monastère islamique. Les chefs spirituels se succèdent ici de père en fils depuis 300 ans. Le cheikh actuel, Mohamed Ali Hessein Erchbendi, a vécu le bombardement chimique.
Je me souviens que c'était le printemps, quelques jours avant le nouvel an kurde. Dans un premier temps, on n'a pas senti d'odeur, mais c'était le chaos. Les disciples de mon père se sont présentés à lui en lui demandant ce qu'il fallait faire. Et mon père leur a dit d'aller en Iran. Et nous, nous avons fait de même. On est monté dans la voiture et en prenant la route, j'ai senti une espèce d'odeur de pomme pourrie qui nous a envahi les narines. Sur le chemin, énormément de gens vomissaient au bord de la route. Même si l'odeur me rappelait la pomme pourrie, il y avait vraiment quelque chose de sucré là-dedans. Le lendemain, on se sentait extrêmement mal. On a essayé de se protéger en mettant un tissu humide sur notre bouche et nos narines. Les gens disaient que ça fonctionnait. Sur la route, j'ai eu une sensation de grippe, les sinus pris, une migraine très forte, les yeux qui gonflent et une intense démangeaison dans la poitrine.
Ce jour-là, 5000 Kurdes meurent à Halabja. Et l'horreur se poursuit des années après. Des milliers de blessés tombent malades.
Haoukar, c'est une autre victime des attaques chimiques. Il nous accueille dans sa maison avec sa famille. Son salon, c'est simplement un grand tapis dans une pièce complètement vide, comme la plupart en fait des maisons irakiennes. Sauf qu'ici, il y a une grosse machine dans un coin du salon d'où sort un tuyau qu'il met dans son nez pour pouvoir respirer.
Ça produit de l'oxygène pur. Je ne peux pas vivre sans. Je l'utilise 17 heures par jour.
Et ça fait longtemps que vous utilisez cette machine ?
Depuis 2015. Je suis tombé malade dès le jour de l'attaque. Mais la maladie a grandi jour après jour. Je prends des médicaments, mais aujourd'hui, ils ne suffisent plus. 85% de mes poumons ne fonctionnent plus, mais j'ai des problèmes avec mes yeux, avec ma peau. J'ai aussi des problèmes d'ordre psychique.
Au-delà de cette machine qu'il y a dans un coin de votre salon, vous avez aussi une espèce d'énorme sac de riz de 50 kilos, en fait, qui ne contient pas du riz, mais des boîtes de médicaments. Vous êtes obligé de prendre beaucoup de médicaments.
Je prends 20 pilules par jour.
Quel âge vous aviez lors du bombardement ?
3 ans. Aujourd'hui, j'en ai presque 38. J'ai perdu ma jeunesse à cause de cette maladie. J'ai perdu toute ma vie. Avec cette machine, impossible de rendre visite à mes proches. Je ne peux pas aller au bazar. Je me mets en colère très facilement. Même quand je vais à la mosquée, je ne peux pas m'asseoir avec tout le monde. Je suis obligé de prier seul dans un endroit médicalisé.
On va maintenant en périphérie de la ville où a été construit il y a 3 ans un hôpital exprès pour soigner les 2000 blessés chimiques qui ont encore besoin de soins 33 ans après l'attaque. Celui qui nous accueille, c'est le responsable de l'hôpital, Haoukar Sabir Mohamed.
Ici, c'est le département de l'hôpital où sont regroupés les médecins spécialisés dans les blessures chimiques. Il y a des médecins pour les yeux, pour la respiration, des psychologues. Toute la semaine, ils sont à la disposition des malades. Chaque patient ici a son propre dossier, créé il y a maintenant 11 ans. Au total, nous avons 2300 dossiers.
Je suis le docteur Sana Tariq Hassan et je suis médecin ici. Les blessés de l'attaque chimique ont le plus souvent des problèmes respiratoires. À chaque fois qu'ils n'arrivent plus à respirer, ils viennent ici et nous leur donnons de l'oxygène. Les gaz chimiques ont eu de graves conséquences sur leurs poumons. Ils n'arrivent plus à s'ouvrir correctement. Donc le taux d'oxygène est trop faible dans le sang, ce qui a des conséquences sur tout le corps.
Est-ce que ces malades ont une chance de guérir un jour ?
Guérir complètement ? Non, ils n'auront pas cette chance. Médicalement, tout ce que nous pouvons faire, c'est empêcher les lésions causées par les gaz de se développer grâce à des médicaments et de l'aide respiratoire.
Le problème majeur ici, et ce qui fait un peu polémique dans la région, c'est que l'hôpital ne peut pas accueillir les blessés chimiques les plus graves.
Les cas les plus graves ont besoin de grève des poumons, mais en Irak et au Kurdistan, ça n'existe pas. Donc les cas les plus graves ne sont pas soignés. Mais les 2300 autres blessés profitent d'une assistance ici. En fait, nos médecins ne sont pas formés à ça. Il n'y a pas le matériel suffisant.
Les armes chimiques à l'origine de ces blessures ont été vendues par des hommes d'affaires européens, et notamment des Français. C'est ce qu'affirme en tout cas l'association des victimes de Halabja. Nous retrouvons une nouvelle fois Lokman Abdelkader Mohamed, celui que nous avions rencontré au début de ce reportage. C'est en fait le président de l'association de victimes qui a engagé une procédure judiciaire ici, au Kurdistan.
Le régime irakien de Saddam ne disposait pas d'un avancement technologique suffisant pour produire des armes chimiques. Certaines entreprises et hommes d'affaires ont donc vendu ces armes à Saddam et l'ont aidé à créer des unités de production en Irak. Ces gens-là, ces hommes d'affaires européens, sont aussi criminels que Saddam Hussein. En tant qu'association, nous avons porté plainte contre leur entreprise ici au Kurdistan. Notre espoir, c'est de pouvoir enfin attaquer en justice les fautifs directement en Europe et qu'ils dédommagent les victimes. Évidemment, si la France et l'Union européenne pouvaient nous faciliter ces démarches, ce serait un grand service rendu aux victimes.
Ce procès, en fait, ne concerne pas uniquement le bombardement de Halabja, car en réalité, cette ville n'était que la première étape de la vaste attaque de Saddam Hussein contre le peuple kurde.
Cette offensive qu'on appelle l'Anfal voit énormément d'opérations militaires, destruction aussi de villages.
Boris Jam, chercheur spécialiste de la question kurde.
Il y a plus de 3000 villages qui sont détruits, les villages sont rasés, les populations sont parqués, pour ne pas dire autre chose, dans des villes-camps. Le but est de contrôler la population et surtout les populations paysannes de la région qui peuvent venir en appui, par exemple, aux rebelles kurdes. Donc on va contrôler les populations en les installant dans des villes-camps.
Est-ce qu'on peut parler de génocide kurde ? Certains franchissent le pas, mais c'est une question qui est discutée.
Ce qui peut nous faire dire que c'en était un, c'est que Saddam Hussein est un nationaliste arabe. La présence même des Kurdes sur le territoire de l'Irak lui posait problème. Ce qui fait que ça n'en était pas un, c'est que dans son fort intérieur, il savait que la réalisation totale d'un génocide était tout à fait inenvisageable. Et il n'y avait pas, si vous voulez, après la comparaison étant ce qu'elles sont, on n'était pas dans un cadre d'extermination industrielle des Kurdes. Par contre, de répression massive, d'assassinat massif, oui, ça c'est, et de crimes contre l'humanité, tout à fait. Mais la systématisation du contrôle de la différence kurde, hein, il fallait contrôler cet espace, éventuellement tenter de l'assimiler, mais il n'y avait pas d'intention d'exterminer les Kurdes au sens où, par exemple, le génocide des Juifs en Europe a pu avoir lieu, quoi.
Anfal, c'est un massacre d'un État sur ses propres citoyens. Un épisode de l'histoire qui a créé une profonde défiance envers quelque autorité que ce soit dans cette partie du Kurdistan d'Irak. Pourtant, c'est devenu une région autonome depuis. L'armée fédérale de Bagdad n'a pas le droit d'ailleurs de mettre les pieds ici, à Halabja. Mais cette méfiance ambiante reste. Solution, selon le gouvernement kurde, la décentralisation. Une province de Halabja vient d'être créée quelques jours avant les 35 ans du bombardement de la ville par le régime de Saddam Hussein.
Les bombes chimiques de Saddam, une plaie encore ouverte pour les Kurdes d'Irak. Un grand reportage de Théo Renaudon, réalisation Donatien Cahu.
Şkerbatır ale ale harudinim vay vay Ezzaşke ale ale caver işim vay vay Şkerbatır ale ale harudinim vay vay Şkerbatır ale ale